VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel dans 10 minutes Carrefour avec Maïlys Eagle, mais tout d'abord le journal. Au Mali, un soldat français de plus tué ce mardi 12 avril dans le pays. Il appartenait au 511e régiment du train d'Oxon et il est mort des suites de l'explosion d'une mine qui a détruit le véhicule à bord duquel il avait pris place. D'autres soldats ont été également blessés. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Ce 13e soldat a été tué au cours d'une opération de contrôle dans la région de Kidal par l'explosion d'une mine contre son véhicule blindé. D'autres soldats français de la même opération ont été blessés dans l'explosion. Dans la zone de Tessalit où s'est produit l'incident, il n'y a que les soldats français qui patrouillent seuls. Les casques bleus de la zone, surtout les Tchadiens, bougent rarement car ils savent que la zone est minée par les djihadistes d'Ansardine qui continuent de mener des opérations isolées. Suite à ces décès, le chef de l'État français a salué la ténacité des soldats français qui poursuivent leur mission aux côtés de l'armée malienne et des forces des Nations Unies pour conforter la souveraineté du Mali et réduire les groupes terroristes dont la menace pèse sur l'ensemble des pays du Sahel. Le gouvernement malien, tout comme la MINUSMA, ont condamné cet acte qui confirme que la lutte contre le terrorisme doit être coordonnée. Rappelons qu'à la date du 26 novembre 2015, les pertes militaires françaises au Mali étaient de 12 militaires, dont un officier et 3 légionnaires. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Bénin, depuis la formation du premier gouvernement de l'ère du nouveau départ prôné par le président Patrice Talon, les décisions pleuvent et entraînent des grincements de dents au sein de l'administration publique. Plus de détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Il l'avait annoncé le 6 avril dernier lors de la prestation de serment. Patrice Talon a dit mettre son mandat sous le signe des réformes administratives et institutionnelles. Deux décisions viennent de prendre corps. L'interdiction des postes téléviseurs dans les bureaux et l'obligation pour tous les fonctionnaires de venir à l'heure au bureau. Désormais, tout fonctionnaire doit signer le cahier de présence disponible jusqu'à 8h15. Excédé 7h, il sera considéré comme absent. La société civile acclame la fin de la pagaille qui sévit dans nos administration où tout le monde se prend pour Dieu. Gustave Assa de l'ONG Social Watch se prononce.
Vous allez dans une administration, vous voyez quelqu'un s'est levé, il n'est pas là, il n'est même pas venu, mais il a pris soin de déposer sa veste et une chaussure en bas de son fauteuil là-bas. Le collègue qui est dans son service n'est même pas en mesure de dire, ça fait 2 jours qu'il est venu, et il s'est livré à ses affaires et il gagne l'argent public. Ça, c'est tuer l'entreprise du service public. Ils sont là une fois par semaine ou peut-être une fois par mois et tout le temps ils sont en mission, ils vont gagner cet argent-là. Au nom de quoi ?
L'autre réforme sur laquelle les Béninois attendent le gouvernement est liée au concours dit frauduleux dont l'annulation est vivement souhaitée par les populations qui pensent que les enfants des pauvres sont sacrifiés au profit de ceux dont les parents sont nantis. La décision ne tardera pas puisque le ministre de la Justice a annoncé qu'elle sera au cœur du premier conseil des ministres de Cotonou. Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Au Niger, première réunion aujourd'hui du nouveau gouvernement mis en place par le Premier ministre Brigitte Raffini, 10 jours après l'investiture du président Mahamadou Issoufou, réélu à un second mandat. Pour les réactions des Nigériens à la nouvelle équipe gouvernementale, notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, a tendu son micro à des habitants de la capitale.
Je pense pas que ce soit ce à quoi les Nigériens se sont attendus. Parce que, au regard de tous les défis qui pointent à l'horizon, surtout financiers, je pense que 38 ministres pour un gouvernement d'un pays comme le nôtre, je trouve que c'est un peu lourd. Quelque part, c'est une récompense et politiquement, ça se justifie.
Le premier constat qu'on fait, c'est un gouvernement pléthorique. Dans le Niger où tout est priorité, l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture, tout est priorité. Un gouvernement de 38 ministres est trop pour le pays.
Un gouvernement de 38 membres n'est ni plus ni moins ce que les jeunes disaient, un partage de gâteaux. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est très nuisible, à mon sens, pour l'économie du Niger. Une économie, d'ailleurs, qui n'arrive même pas à subvenir aux besoins essentiels de la population du Niger.
Quelles sont vos attentes ?
De ce gouvernement, sincèrement rien. Parce que pour moi, il ne peut pas. L'histoire nous dira.
Si c'est autour de 30, là, d'accord. Sinon, vraiment, j'ai regardé le profil de tout un chacun parmi eux. Je les connais presque tous. Hein. C'est une bonne équipe. Que Dieu leur donne bonne chance et que notre pays aille de devant.
Des habitants de Niamey au micro de notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa. La lutte contre Boko Haram maintenant, de plus en plus d'enfants sont impliqués dans des attaques suicides dans la région du lac Tchad où le groupe islamiste nigérian affaibli militairement tente d'instaurer la terreur par tous les moyens. C'est ce que rapporte aujourd'hui l'UNICEF. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de 4 enfants utilisés dans des attaques kamikazes en 2014, on est passé à 44 l'année suivante au Nigeria, Cameroun, Tchad et Niger, où sévit Boko Haram qui a rallié l'organisation de l'État islamique. Le rapport de l'UNICEF met l'accent sur la situation dramatique de milliers d'enfants victimes d'enlèvements, d'abus sexuels et de mariages forcés qui sont devenus une arme de guerre aux mains de Boko Haram qui les utilise comme bombes humaines ou pour transporter des explosifs.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Élection présidentielle au Tchad. Les résultats du scrutin ne seront pas connus avant le 23 avril, conformément à l'article 74 du Code électoral. Mais en attendant, les différents protagonistes multiplient les déclarations en faveur de la transparence dans le dépouillement du vote et de la neutralité de la CENI, la Commission électorale nationale. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Après avoir accompli leur devoir civique le 10 avril dernier, les électeurs se tournent vers la CENI. L'organe habilité a donné le résultat provisoire de cette consultation électorale. Mais déjà, la direction de la campagne du président sortant se dit confiante du résultat qui sera proclamé par la CENI.
Nous attendons sereinement et avec une totale confiance le traitement et la proclamation des résultats par les instances nationales compétentes.
Lui, c'est Mohamed Zen Bada, directeur national de campagne du président Déby. Il invite les autres candidats à faire preuve de responsabilité.
L'équipe nationale de campagne de l'Alliance réitère son attachement au respect de la légalité républicaine et des règles du jeu démocratique. Nous attendons de nos adversaires qu'ils se conforment aux mêmes exigences afin de préserver les conditions d'apaisement et de sérénité dans lesquelles le processus électoral a évolué jusqu'à ce jour.
Le porte-parole du candidat Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition, Célestin Toponan, relève ici certaines irrégularités constatées pendant le déroulement du vote.
Plusieurs urnes ont été emportées, dont 3 urnes à Farcha, dans le premier arrondissement municipal de N'Djamena, à Moussoro, dans le Bar El Ghazal. 23 urnes qui ont été enlevées de force pour une destination jusqu'aujourd'hui inconnue. Un schéma de faux résultats a même été concocté par le MPS pour être imposé à la CENI afin d'octroyer la victoire à MPS, alors que sur le terrain, c'est exactement le contraire qui se passe.
Commentaire du candidat Laouken Kouraïo Médar, maire de la ville de Moundou, capitale économique du Tchad. Bien que convalescent, il se prépare pour le deuxième tour.
Il y a eu des cas de fraude qui ont été décelés ça et là. La police même est témoin. Déby dit qu'on doit lui donner 54% pour qu'il passe au premier tour. Mais si la CENI lui donne 54%, ça veut dire que le Tchad va être ingouvernable. Et moi, j'espère que nous allons passer au deuxième tour, quoi qu'il en soit.
Dans le centre du pays, avec la complicité des autorités administratives, civiles et militaires de la région du Wadaï, les urnes et procès-verbaux du département de Abdi sont ramenés de force à Abéché sans l'avis de la sous-commission départementale de la CENI. Coup de gueule de Darongar Vincent, président du bureau de vote.
Tous les membres du bureau CENI, les opposants, ont démissionné. Parce qu'ils sont venus arracher de force les trucs, donc certains ne sont pas d'accord. Même les résultats sont interdits d'afficher.
Le président de la sous-CENI sous-préfectorale, Amat Makin, confirme le fait et informe que ses agents lui ont dit que l'ordre de ramener ses matériels à Abéché Centre est venu de leur chef hiérarchique. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Crise en Libye, tout comme l'Italie avait été le dernier pays occidental à retirer son ambassadeur à Tripoli lors des violences de l'été 2014 dans son ancienne colonie, le chef de la diplomatie italienne Paolo Gentiloni est aujourd'hui le premier responsable occidental à se rendre dans la capitale libyenne. Idriss Fall.
Paolo Gentiloni est resté 3 heures à Tripoli où il a été reçu par Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale. Il a réaffirmé que son pays est prêt à coopérer avec Tripoli dans la lutte contre la menace djihadiste en précisant que cette mission est d'abord celle des Libyens. Paolo Gentiloni a remis des aides médicales pour les hôpitaux, dont 3 kits sanitaires pour quelque 30 000 patients. Sa visite intervient au moment où une 50aine de pays sont réunis à Tunis pour coordonner le soutien à la Libye. Selon l'OMS, plus de 2,4 millions de Libyens ont besoin d'aide humanitaire sur les 6 millions d'habitants.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.